Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR, une nuit NBA avec 8 matchs au programme, Shai. Pas forcément beaucoup de matchs très intéressants, mais on va commencer avec une perf assez impressionnante. C'est une perf individuelle, c'est celle de De'Aaron Fox. De'Aaron Fox qui a égalé son record en carrière, 44 points. 44 points lors d'une victoire des Kings contre les Lakers, 130 à 120. 44 points, comme je l'ai dit, c'est donc son record en carrière égalé. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est son septième match cette saison déjà. Je crois que je me semble avoir lu ça. Septième match, avec au moins 40 points. Ce qui est quand même assez impressionnant sur une saison NBA de claquer 7 matchs avec au moins 40 points, mais sans jamais aller au-dessus de 44 du coup.
Ouais, de toute façon, c'est devenu un joueur. Depuis l'année dernière, je trouve, et depuis paradoxalement, c'était qu'une série de playoffs qu'ils ont perdu, mais il y a un changement de statut un peu chez Fox. Alors, il n'a pas été All-Star cette année. C'est un peu. Moi, j'avais pas trouvé ça très juste, mais après, faut. Qui t'enlève, qui tue, c'est toujours la question. Mais en tout cas, pour moi, c'est un All-Star même cette année. Les Kings sont un peu trop irréguliers à mon goût. Là, tu vois, ils sont capables de battre des Lakers qui étaient franchement plutôt en forme. Et Fox reste la valeur étalon de l'équipe parce qu'on parle beaucoup de Sabonis qui est très précieux, qui est excellent.
Et au passage, Sabonis, ouais. 16 points, 20 rebonds, 12 passes encore cette nuit.
Ouais, le triple double, la série, bon, vu que visiblement ça l'intéresse, il va quand même égaler puis dépasser la série de Kevin Love de double double consécutif, je pense. C'est 53, il doit se rapprocher des 50 là.
Ouais, fin de la quarantaine.
On a vu la dernière fois que ça lui tenait quand même à cœur au point de re-rentrer dans des matchs, donc je pense que celle-là il va la faire. Mais Sabonis est évidemment très 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 important, mais Fox c'est le mec qui peut les faire basculer vers un niveau supérieur qui peut leur faire gagner une série en fait, tu vois, ou un match clé. C'est toujours l'impression que j'ai eu là sur ce match-là. Il a été même dans le dernier carton quand les Lakers tentent de se rapprocher un peu. À chaque fois, il remet un panier derrière. Il est ultra efficace. Il a cette étiquette de joueur clutch aussi, hein, mine de rien. Il a gagné le.
Il a été le Mister
voilà,
Clutch.
Voilà, le Mister Clutch, le trophée du joueur le plus clutch de l'année. Et c'est pas usurpé, c'est un joueur je le trouve encore à un moment charnière, il est dans une situation un peu entre deux où c'est clairement un All-Star qu'il soit sélectionné ou pas. Il a ce niveau-là de franchise player, c'est un peu le visage de la franchise, et il lui manque encore le passage au statut de superstar, de mec dont tu sais qui va te faire gagner une série ou un match compliqué. Et bon, là sur des matchs comme ça contre les Lakers, 44 points, 19 sur 32, des paniers importants. Et une victoire, une très bonne victoire pour les Kings, parce que les Lakers étaient qu'à une victoire et demie, je crois. Et c'était important pour la course au play-in, tout simplement. Enfin, ou au fait d'éviter le play-in.
Ouais, il y a une course assez folle à l'ouest, de toute façon, entre la 5e et la 10e place, c'est très serré. Sacramento peut encore espérer justement finir dans le top 6. Pour l'instant, ils sont 6e. Pour Fox, je pense que c'est... En fait, depuis l'an dernier, il est rentré dans son prime, ce qu'on appelle le prime, dans la meilleure période de sa carrière. Il est le joueur. Alors, il peut toujours évoluer, comme tu as dit. Je ne sais pas s'il atteindra un jour ce plafond de vraiment superstar. On parle des joueurs, tu vois, qui sont dans les 5, 6, 7, 8 joueurs, les meilleurs joueurs de la Ligue, ceux théoriquement autour duquel tu pourrais bâtir une équipe et aller au titre, parce qu'au final, il n'y a vraiment qu'une petite poignée de joueurs comme ça à chaque fois. Mais on est sur un joueur super confiant. Tu as parlé de ses playoffs. Il avait été bon en plus. Il avait été très très bon sur cette série avant de se faire mal à la main. Il avait été vraiment intéressant. Il avait largement tenu tête à Curry. C'est un joueur excellent. C'est un sacré scoreur en fait. C'est un meneur qui est un sacré scoreur. Je trouve pas que la passe soit sa qualité première. Alors je dis même pas ça parce que cette nuit il a fait 4 passes, mais avec sa vitesse, sa capacité à vraiment prendre le dessus en 1 contre 1, c'est pour ça que ça le rend aussi fort dans les 4e quart-temps. C'est qu'il peut faire la différence à tout moment au final.
Ouais. Et sinon, j'ai pas trop aimé le match des Lakers, mais bon, ça c'est la vérité d'un soir. Hein, mais j'ai pas. LeBron a été bon, Hachimura aussi. LeBron fait 31 points, 13 passes. Anthony Davis, ça a été plus compliqué, 14 points. Il a eu des petits soucis de faute, et défensivement, j'ai pas aimé leur match. Les Kings ont shooté à 55%, les Lakers à 51%, et je trouve que c'est une occasion manquée pour les Lakers. Je trouvais ça un peu décevant, voilà.
Ouais. Allez, on enchaîne avec une prestation collective cette fois-ci, une performance assez impressionnante, c'est celle des Golden State Warriors qui ont écrasé les Milwaukee Bucks à domicile. Ils rentraient de leur road trip plutôt convaincant, d'ailleurs, 3 victoires sur 4 à l'Est. Et là, ils ont joué contre le deuxième de la conférence Est, une victoire 125 à 90. Alors Milwaukee, qui restait sur une belle prestation sans Giannis, bon là, ils se déplaçaient à l'autre bout du pays, effectivement. Le match d'avant était déjà, étaient déjà à l'Ouest, je dis peut-être une bêtise, ils ont déjà joué contre les Clippers, c'était peut-être déjà à Los Angeles. Donc au final, il n'y avait pas ce long déplacement, oublions. Mais Milwaukee, qui capable défensivement, qui a montré des choses depuis l'arrivée de Doc Rivers et qui là prend un bouillon, surtout en première mi-temps. Ils prennent, je crois, 78 points en première mi-temps. Il y a 29 points en 31 minutes de Stephen Curry, 20 points de Jonathan Kuminga en 25 minutes. Voilà, les Warriors ont déroulé, les Warriors confirment leur forme actuelle en fait.
Ouais, et alors, il y a juste le petit bémol sur le road trip dont tu parlais. Sur la, bon, ils ont vraiment été en forme, mais ils ont pris une gigantesque claque contre Boston quand même. Mais sinon, ouais, là, ils ont été bien. Curry a été bien, 29 points à 10 sur 18. Tu parlais du début de match qui a été mauvais pour Milwaukee. Le dernier carton a été cata aussi, 32-9. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Si tu l'as
Le
sous les
dernier
yeux.
carton, c'est 32-9, c'est ça,
Bon,
ouais.
voilà, alors.
C'est-à-dire qu'ils reviennent un peu dans le troisième. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai voulu commencer à mettre le match. Tu vois, j'ai repassé un peu sur ce match. Il y avait plusieurs matchs en même temps. Je regardais un peu le Thunder, enfin bref.
Ouais, moi aussi, ouais.
Et donc, ils se recollent un peu. Et en fait, dès le début du quatrième carton, ça devient une purge parce que Milwaukee ne met pas un panier.
Ouais, c'est ça, quoi.
J'ai vite refait le chemin inverse.
Kuminga 20 points, c'était bien aussi. Avec la deux, là, ils sont revenus à la formation avec Klay Thompson sur le banc. Podziemski est à nouveau titulaire. Et ça a bien fonctionné, les Warriors. Plus 35 quand même contre Milwaukee, c'est plutôt satisfaisant pour eux.
Les Warriors qui sont 9e à l'Ouest. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression qu'ils perdent plus depuis très longtemps et malgré ça, ils sont pas remontés beaucoup plus haut. Mais avec les déboires de Dallas, Golden State peut encore clairement viser cette 8e place. Il n'y a quasiment pas d'écart. Ils ont quasiment le même bilan, 34-28 pour Dallas, 33-28 pour Golden State. Et il y a même encore possibilité d'aller chatouiller un peu plus haut, même si Phoenix et Sacramento ont un peu plus de marge. Mais voilà, les Warriors, en tout cas, montent en puissance au meilleur moment. Sur la dernière ligne droite de la saison, ils ont trouvé leur rotation, ils ont récupéré Wiggins.
Et t'as vu cette petite interaction entre les meilleurs amis du monde, Patrick Beverley et Chris Paul?
Non, j'ai pas fait gaffe.
C'est une situation où Beverley attaque le ballon et Chris Paul l'évite à moitié et tout, et l'autre fait une cascade pas possible, et derrière il vient lui taper dans la main, puis il lui tape sur les fesses. L'autre il veut rien avoir à faire avec lui. C'est toujours aussi tendu entre eux, depuis les déclats de Beverley l'année dernière, ou il y a 2 ans,
Ouais,
que j'avais trouvé assez folle.
qu'il lui a dit qu'il était cuit, quoi. Je me souviens
Il
plus
lui, ah,
exactement, mais
c'était sur ESPN, il lui avait
oh, je le
dit.
burn.
Il lui avait dit Chris Paul, c'est un plot en défense, personne ne le respecte. Enfin, il était allé très très loin, en tout cas. Mais ouais, donc là, une petite
Pas du
interaction sympa, petite tape sur les fesses,
J'étais passé à côté,
que
ouais, j'avais pas vu.
Chris Paul en voulait pas du tout. Il était pas du tout dans la camaraderie là.
J'ai vu que Draymond a pris une technique.
Ça
Et
faisait
il est.
longtemps.
Et. Il n'est pas passé loin. Il y a eu un des moments justement où j'ai mis le match. Il y avait une semi-échauffourée. Je ne vais pas appeler ça comme ça. Je crois que c'est Portis, mais j'ai un doute. Et tu vois, il y avait moyen de se prendre une double technical et que
Et
lui, du coup, sorte. Mais bon, au
il
final, ça aurait
compare,
été
il
en
comparait peut-être les patates qu'ils ont mis respectivement à l'entraînement, l'un à Mirotic et l'autre à Jordan Poole. Non,
Bah,
c'est moi qui ai mis la plus forte, non, c'est toi.
j'ai l'impression que Portis, ça a laissé plus de traces quand même. Mais bon.
Ah bah, il y en a un qui est plus dans la ligue, ouais. Alors l'autre, il certes,
Bah,
il est plus.
Il avait pété la mâchoire, en
Ah
fait.
ouais, complètement. Et puis surtout, Mirotic n'avait pas du tout été soutenu. C'était par les Bulls, c'était ça, c'était à Chicago. Ouais. Oui, Chicago, je dis pas de bêtises.
Oui, c'était à Chicago, oui.
Il n'avait pas du tout été soutenu, et du coup il était sorti, il était parti petit à petit de l'effectif. Alors que Jordan Poole, bon, il a plutôt été globalement soutenu, et il a signé un énorme contrat derrière en guise de consolation.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on peut continuer avec la victoire des Clippers, par exemple, celle des Clippers contre les Rockets. Les Clippers n'ont pas mené avant les 3 dernières minutes
Ouais.
du match sur un panier de Paul George qui les fait enfin passer devant Houston, a mené tout du long, mais a perdu. Victoire des Clippers 122-116. Ils ont quand même trouvé les ressources à la fin. Il y a 28 points de Kawhi Leonard avec 7 passes aussi, notamment 21 points pour Paul George, 21 points pour James Harden et Los Angeles qui gagne son 40e match de la saison. Ils sont pas tout à fait sur le standard. Phil Jackson, c'est-à-dire que c'est 40 victoires et 21 défaites pour le coup.
Ils
Donc il
sont
y
pas
a
loin.
un match d'écart sur le
Ouais.
standard. La théorie Phil Jackson des équipes sacrées, enfin qui peuvent être championnes, sont celles qui gagnent 40 matchs avant d'avoir leur 20e défaite. C'est pas passé loin pour Los Angeles, mais voilà, beau succès. Encore une grosse perf d'Alperen Şengün, 23
Ouais.
points, 19 rebonds, 14 passes.
Triple double, c'est bien juste après. Bah hier, j'avais comparé son développement à celui de Jokic, toute proportion gardée évidemment. Et il fait le genre de match dont était déjà capable Jokic au même stade de sa carrière. Et donc voilà, joueur toujours, je le disais hier, intéressant et bouillant en ce moment. Bon là, ça n'a pas suffi. J'ai bien aimé Mason Plumlee chez les Clippers, sorti de banc, 8 points, 11 rebonds, 3 contres.
C'est ça, belle
L'Energizer
rentrée.
dont ils ont besoin, avec un gros plus-minus aussi, je l'ai plus en tête, mais
Plus 14.
plus
C'est un bon
14.
joueur. Ils ont une belle rotation au poste de pivot entre Zubac. D'ailleurs, ça va un peu mieux depuis que je crois que c'est Zubac qui vient de revenir. Il leur manquait Zubac. Il manquait Zubac pendant plusieurs matchs. Il est revenu là il n'y a pas si longtemps. Et depuis qu'il est revenu, ils ont gagné 2 sur 3. Ils ont une rotation intéressante. Zubac, Theis, Plumlee, il y a de la qualité, quoi.
Exactement. Et donc là, ils ont, si t'as le classement sous les yeux, ils ont repris une petite marge sur les Pelicans, je parlais hier du
Ah
fait que
oui.
c'est, oui, voilà. Je disais que c'était,
Non,
il y avait
non,
un faible espoir pour les Pelicans de venir les
non.
embêter, mais là, à partir du
Non.
moment où les Clippers gagnent des matchs comme ça, même en faisant des matchs de traînard et en se faisant un peu violence sur la fin, voilà.
Les Pelicans sont plus proches de sortir du top 6 que de se rapprocher des Clippers. Hein. Je pense qu'il y a même plus de chances. Je sais que tu aimes beaucoup New Orleans, mais avec leur irrégularité et le classement dont il est fait, il y a plus de chances de voir New Orleans sortir du top 7, du top 6 que de voir New Orleans passer quatrième. Mais par contre, ça nous donnerait pour l'instant une série très très intéressante, Clippers-Pelicans au premier tour. Après, si c'est Clippers-Suns, ça serait très intéressant aussi. C'est un remake de l'an dernier.
Tout sera très bien.
Mais tout à
Il n'y
l'Ouest,
a pas
tout à l'Ouest
de
très bien.
mauvaise série à l'Ouest, je crois. Franchement, ça va être du spectacle.
Ouais, non, c'est clair. En tout cas, bon, voilà. Los Angeles qui se remet entre guillemets dans le droit chemin. Ils venaient de perdre le match d'avant. On peut passer. En bref, il y a un autre match qui m'intéresse, c'est la victoire d'Orlando contre Washington. Ça m'intéresse parce que cette équipe du Magic, elle est vraiment en grande forme. C'est sa cinquième victoire de suite, la huitième en 9 matchs. Je sais que ça va te faire plaisir. Orlando qui était mené en début de match, hein, il y avait 21 points d'avance pour Washington, mais que victoire quand même du Magic contre les Wizards, 119-109. C'était d'ailleurs la 16e défaite de suite des Wizards, record de franchise égalée. C'est le tandem qu'on aime bien, Wagner-Banchero qui a fait la diff. 28 points de Wagner, 25 points, 10 passes pour Banchero.
Ah, ils avaient 21 points de retard dans le deuxième carton. Ça sentait mauvais, ça sentait la fin de série pour les Wizards, enfin sortir de la galère. Et ça m'a rappelé tu sais, la terrible série des Pistons, où il y a quand même pas mal de matchs où ils menaient de 15, 20, 25 points de tête et ils perdaient quand même tellement la spirale était négative. Là, les Wizards, ils me semblent quand même être dans un truc du même genre, et contre une équipe d'Orlando qui a absolument pas intérêt à lâcher des matchs. Ils sont sur 8 victoires en 9 matchs maintenant. Là, c'est la cinquième de suite. C'est sûr que ça pouvait pas passer. En deuxième mi-temps, Orlando a fermé la boutique défensivement, 44 points encaissés. Et ça a suffi. Et Orlando qui est toujours top 4.
Ouais, toujours top 4 et qui monte en puissance au meilleur moment, là aussi, pour le coup, sur
Exactement.
la fin de saison, et avec cette possibilité d'aller chercher le premier tour avec l'avantage du terrain.
Serait beau.
Ouais, ça serait beau pour un retour en playoff. Ça me fait penser un peu la saison, tu vois, où les Knicks, alors pas du tout pour les équipes, hein, mais pour le classement, là, tu sais, où les Knicks avaient retrouvé les playoffs en étant déjà quatrième. Voilà. Orlando, évidemment, avec leur manque d'expérience, c'est pas garanti que tu gagnes direct une série de playoffs,
Ah
même
non,
avec
c'est sûr.
l'avantage du terrain. Mais il y a une vraie bonne défense. Moi, j'adore Banchero, j'aime beaucoup Franz Wagner aussi. D'ailleurs, Jalen Suggs, tu vois, c'était quand même un mec qui a été annoncé à un moment potentiel top 3. Il a été pris en 5. Il a eu un début de carrière difficile, mais c'est quand même un joueur vraiment intéressant. Ça sera sans doute jamais une star. Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, c'est pas, on verra, il peut toujours évoluer, mais dans son rôle, c'est
Ouais,
une star en
en fait,
fait.
c'est pas le joueur que je pensais qu'il serait. C'est bizarre. Enfin, je sais même
Il
pas
est
si c'est
très
français ce
précieux,
que je
je
dis.
pense.
Mais tu sais, à la fac à Gonzaga, c'était vraiment le patron de l'équipe. Il mettait des paniers clutch et tout. Et je le voyais pas devenir une sorte de. Alors, je dis pas que c'est les mêmes joueurs du tout, mais tu vois, Marcus Smart dans le côté. C'est lui qui a la débauche d'énergie. C'est lui qui fait changer le rythme et l'intensité de son équipe. Je le voyais pas devenir ça, en fait. Et c'est très intéressant pour Orlando. Il a eu un début de carrière un peu compliqué avec les blessures. Mais là, il a vraiment trouvé un rôle, et t'as raison, c'est un élément important de leur très belle saison. Et je suis en train de, je suis en, je, là, je, enfin, comme je disais, j'ai pas le classement sous les yeux. New York est combien là?
New York est cinquième,
Ok, donc il y a potentiellement
juste
une
derrière.
série, il y a potentiellement un premier tour entre mes deux équipes préférées en NBA. Ça va être terrible. Deux équipes qui vont pas si souvent que ça en playoff depuis que je suis
Et
le
qui jouent
basket.
dur et défendent fort.
Voilà, mais à la série la plus défensive, là, tous les gens qui se plaignent du fait qu'il y ait trop de points marqués, ça va peut-être être des séries ultra défensives. Je veux bien voir ça, même si j'aurais du mal à. Je pense que je serais quand même pour Orlando parce que ce serait l'outsider de la série, mais ouais, je suis assez chaud.
Mais là aussi, on serait sur des séries assez intéressantes, je pense, parce qu'il y a soit Orlando-New York, soit Orlando-Miami. Pareil, c'est quand même bon, les deux équipes floridiennes.
Ouais.
Ça serait une des séries, sans la série d'Orlando. Je suis content qu'Orlando, alors la place dans le top 6 n'est pas validée, hein, mais y a quand même, y a pas tant d'écart que ça. Les Sixers, par exemple, dont on va parler, sont passés 7e, mais il n'y a que un match et demi d'écart entre les deux équipes, quoi.
Ouais. À Philadelphie, ça dégringole un peu, ouais. Beaucoup même.
Bah, on peut en parler, Philly qui a perdu contre Memphis. Alors, c'est pas le match dont on va rester le plus longtemps dessus, mais voilà, Memphis a gagné 115-109 contre les Sixers. Et évidemment, il manque du monde. Il n'y a pas Tyrese Maxey, il n'y a pas Joel Embiid. Mais il y a, ouais, défaite contre Memphis, c'est toujours compliqué. 30 points de Jaren Jackson Jr., qui a pris 25 tirs, 10 points de Nicolas Batum. On n'a pas donné les stats de Bilal, mais Bilal, c'était 7 points, 4
Ouais, il
rebonds
était
pour les Wizards.
titulaire, ouais, titulaire 28 minutes, 7,4 rebonds, une passe, une interception et un contre pour Bilal. Ouais, pour revenir à Memphis, je suis assez content que. Je vais dire mes Grizzlies, alors que je viens de dire que j'avais deux autres équipes préférées en NBA, hein, mais c'est que j'aime bien les Grizzlies et j'aime bien le fait qu'ils emmerdent du monde comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont absolument plus rien à jouer, mais ils arrivent à battre des équipes qui ont quelque chose à jouer et ça me plaît beaucoup. Donc
Ouais.
là, forcément, Philadelphie est diminuée, mais. Tu vois, aller gagner à Philadelphie avec Jared Jackson Jr. qui est bon, Jake LaRavia dont on parlait déjà avant-hier, 19 points, 13 rebonds. J'aime bien voir des joueurs émerger comme ça et se montrer pour la saison prochaine pour laquelle j'ai beaucoup plus d'ambition et d'optimisme pour Memphis.
Après, c'est toujours compliqué de savoir ce que ça vaut un joueur qui performe dans un
Bien
tel
sûr,
contexte, tu vois.
bien
Mais bon.
sûr.
Mais
Et Philadelphie avait 12 points d'avance à l'entame du quatrième quart-temps et ça a flanché. Ça a flanché,
ils n'ont
c'est
pas de
pas.
closer en fait. Là, il y a pas, t'as pas
Ouais.
Maxi, c'est limite Kelly Oubre qui prend les responsabilités quoi dans cette
Ouais,
équipe.
et
Le
du coup,
scoring quoi, il faut jouer des.
vu la dynamique et vu que le retour d'Embiid n'est pas non plus imminent, imminent, ça sent le play-in pour Philadelphie.
Après on verra. Il y a pas tant de marge, mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi que ça sent le play-in. Je pense aussi que ça sent le play-in parce que cette équipe elle va avoir du mal à scorer. Faudrait vraiment qu'elle trouve une espèce. Après, il y a le bon coach pour. Nick Nurse, c'est celui qui peut essayer de sublimer un collectif offensivement. Mais c'est vrai que juste devant, il y a quand même Miami, New York, Orlando. Pas simple. On peut passer à une autre perf de MVP, celle de Shai Gilgeous-Alexander. 37 points. Victoire du Thunder contre les Portland Trail Blazers. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. On aurait pu ouvrir par ça. Le match a fini plus tard que prévu. Bismack Biyombo a fait un malaise, on peut
C'est un
dire ça
malaise,
comme ça.
ça ressemble à un malaise, ouais.
Comme un espèce de malaise vagal, il s'est écroulé en fait après un temps mort devant le banc. Il a commencé à s'écrouler, ses coéquipiers l'ont retenu. Les médecins sont venus, l'ont examiné longuement. Ça a créé un long délai sur le match. A priori, tout va bien. Ils n'ont
Ouais.
rien révélé
Ça,
d'alarmant.
le staff médical, en fait, le staff médical des Blazers se l'a pris en charge tout de suite. Et ce qui faisait peur sur le coup, c'est donc qu'il est debout et il s'écroule. Et tu sais, on a vu tellement malheureusement des footballeurs, par exemple, je sais pas, je repense toujours à Christian Eriksen, tu sais, des mecs qui font des attaques, des crises cardiaques en plein milieu des matchs, et c'est terrifiant, les mecs qui peuvent y passer. Là, apparemment, c'était que un malaise, parce qu'il a rapidement repris et retrouvé ses esprits, et les nouvelles ont été bonnes rapidement, mais ça fait très peur, parce qu'il est debout, et puis il tombe d'un coup, et les mecs, ils s'en rendent compte. Il peut même, enfin, tu peux te faire très mal, tu peux chuter
Ah
lourdement, le
bah.
mec c'est un double maître, tu t'éclates contre le banc. Donc heureusement, voilà, on lui souhaite un bon rétablissement, on espère que c'est pas grand-chose, un petit coup de fatigue, hein, un petit malaise, mais ça a effectivement fait un peu flipper.
Yes. Et bon, du coup, après pour le match, donc le Thunder un peu secoué a quand même gagné 128-120. En restant, les Blazers étaient longtemps au contact. Chez Gilgeous-Alexander, comme je le disais, 37 points à 13 sur 23, encore une fois très efficace, 5 passes décisives. Il y a 31 points de Jalen Williams, qui a été important, notamment à la fin aussi.
Ouais.
En face, 29 points d'Anfernee Simons. Bon, cette équipe des Blazers, là, il y avait Jeremy Grant. Je me moquais un peu l'autre fois des titulaires qu'il peut y
Ouais.
avoir, ou en tout cas de l'équipe alignée par Portland. Mine de rien, bon, ils se débrouillent quand même. Ryan Rupert, un peu maladroit, 1 sur 6 sur ce match.
Ouais, il a joué 18 minutes, ça c'est cool. Il a du temps de jeu, mais il a été moins à son avantage qu'au match précédent. Portland, quand même, ils sont revenus. Quand j'ai mis le match, ils ont fait un bon petit run. Ils sont revenus à 2 points, je crois. 2 points à 4 minutes de la fin. Et c'est là qu'on a vu Jalen Williams mettre des shoots, Shai Gilgeous-Alexander mettre des shoots. Et il faut, je pense, aussi dire un petit mot de Chet Holmgren qui a été excellent. 21 points, 14 rebonds, 5 passes. Je pense qu'il doit avoir l'un des meilleurs plus-minus du match aussi, si tu as ça sous les yeux, parce que j'ai pas le box score, mais vrai, vrai
Le
bon
plus, main...
impact.
le
De
plus minus de qui, pardon?
Chet Holmgren.
Chet Holmgren, oui, plus 32.
21
points,
voilà.
14 rebonds, 5 passes, comme tu as
Voilà,
dit. 6 sur 9.
dans une victoire de. Alors, il gagne de combien? Il gagne que de 8 points et voilà, plus 32, c'est quand même solide.
Ouais, clairement. Continuons avec la victoire de Chicago contre Utah, 119-117. 29 points de DeMar DeRozan, 23 points de Nikola Jovicevic, 25 points de Kobe White. J'ai l'impression que c'est toujours les trois mêmes hommes du
C'est
côté de
pareil, ouais.
Chicago qui font la diff. Le 5 majeur en fait de Chicago est plutôt pas mal. Hein. Chicago qui va aller jouer le play-in, qui aura sa chance de jouer en play-off parce que mine de rien, un play-in avec Philly, Indiana, Atlanta, il y a une place à prendre. Et voilà, et victoire contre Utah, il y a eu une altercation dans le match. Moi, c'est ça qui me marque.
Le mec aime la bagarre.
Entre John Collins, qui a mis 25 points, 13 rebonds d'ailleurs. John Collins qui s'était embrouillé un peu avec un assistant. Et je crois que c'est Drummond après qui lui met la pression. Je ne sais plus avec qui il s'embrouille à la base.
Je ne sais même plus. Je vois Collins un peu péter un câble, mais je n'ai pas... J'ai pas tout vu. Ouais.
Mais ouais, voilà. Donc bon, victoire de Chicago.
C'est marrant, tu parles du play-in pour Chicago, mais c'est typiquement l'équipe super relou à jouer sur un play-in. Parce qu'ils ont le talent en fait. Ils ont des joueurs individuellement.
Ah bah oui, clairement.
DeMar DeRozan, c'est bon, voilà, tu vois, on connaît Vucevic, Kobe White, il fait une belle saison, il fait quand même une saison un peu révélation pour lui. C'est vraiment les équipes emmerdantes que je pense que tu n'as pas envie de jouer sur un match. DeRozan, il peut finir à 45 points, Vucevic va prendre 25
si
rebonds.
Bien, dans le quatrième quart-temps, ils mènent contre le Heat, hein, ils sont vraiment pas passés loin de sortir le Heat et
ouais.
Ils n'ont jamais eu ce parcours du Heat, du coup, enfin, ils sont vraiment passés tout près d'aller en playoff.
C'est ça. Donc autant je crois absolument pas en eux sur une série de playoffs, autant sur du play-in, pour se qualifier pour la dite série de playoffs, pourquoi pas.
Ouais. moi aussi, j'aimerais bien qu'ils soient en play-off. Je vais te l'avouer. Après, je suis d'accord avec toi, je crois pas non plus au fait qu'ils sont capables sur une série de sortir n'importe quelle équipe qui serait du coup bien classée à l'Est. Mais je trouve qu'il y a des bons vétérans, tu vois, les Caruso, les mecs comme ça, j'ai envie de les voir en play-off.
Ouais.
Même André Drummond, que je trouve très intéressant depuis sa reconversion en vétéran. Je sais pas si tu as remarqué, si tu l'as déjà entendu parler. Il est très intéressant dans sa manière de parler aux jeunes et d'être un mentor. C'est un mec qui était programmé pour être une star. J'ai vu plusieurs extraits comme ça. Il faudrait qu'un dans une late session, dans un CQFR, je dise exactement ce qu'il a dit, mais c'était censé un mec qui était censé être une star. Il n'a jamais vraiment réussi à passer ce cap, même s'il est peut-être All-Star, lui.
Il est All-Star.
Donc, tu vois, il a eu son gros contrat et tout. Il explique comment il a tout perdu. Je trouve ça super intéressant. Il y a un recul sur lui-même. Que je trouve fascinant et j'aime bien ce gars. Et en plus, il est quand même toujours capable de te claquer 20 points, 20 rebonds en 17 minutes.
Oui, c'est vrai.
Sans
raison.
Que tu saches parfois vraiment si ça a de l'impact ou pas. Tu vois, je pense que c'est le GOAT d'Hassan Whiteside au niveau des performances. Tu vois, genre parce qu'Hassan Whiteside, tu sais que c'était vide. Tu vois.
Ouais.
Lui, quand même, c'est pas toujours vide. Tu vois. Il y a des fois, tu te dis.
Mais en fait,
il y a quand même quelque chose.
Il fait partie de ces mecs. Il fait partie de ces mecs qu'on. Ils ont été pris entre le changement de style de jeu en NBA un peu, tu vois. C'est-à-dire que c'est un type, lui, tu pourrais le dire, dans les années 90, alors je sais pas, est-ce qu'il aurait été assez dur et compagnie, mais vu son style de jeu, il aurait été terrifiant dans les années 90. C'est un mec qui prend énormément de rebonds, qui est assez, assez dominant dans la raquette. Après, pour le reste, bah, il est pas très moderne dans l'approche André Drummond. Mais oui, je suis d'accord, c'est intéressant. C'est son recul, son vécu, le fait que ça a été un mec qui a des gros contrats et qui à un moment était plus du tout désiré.
Qui maintenant est un minimum vétéran.
Et maintenant est un minimum vétéran, alors je me fais pas trop de soucis pour lui. Enfin, après, je sais pas, dans les déclats, il disait qu'il avait tout perdu au niveau de la situation ou au niveau de l'argent, parce que c'est pas pareil, mais.
Les deux. Bah, les deux. Enfin, non, lui, il raconte pour la situation plutôt.
Oui,
en fait, c'est lié, mais lui, ce qu'il explique, c'est plus son statut, comment son statut a changé. Après, il fait un rapport avec l'argent, mais parce qu'il y a toujours un rapprochement évident entre statut et argent. Mais voilà, il explique comment il est passé de star à mec qui lutte pour des contrats, tu vois.
Ouais. Non, c'est intéressant, c'est clairement. Et je m'attendais pas à entendre parler d'Hassan Whiteside, dont j'avais oublié l'existence dans le CQFR de ce matin, mais ça fait plaisir. On salue Hassan Whiteside qui a pris sa retraite, hein, on est d'accord, il joue plus, je crois.
Oui, plus personne veut de lui, quoi.
il aurait pu aller chercher d'autres contrats un peu plus exotiques.
Ouais, bah, je sais même pas ce qu'il devient, pour être honnête.
On cherchera, on vous dira.
On cherchera, ouais. J'allais me préparer à taper dans Google, puis je dis, oh non, allez, pas la peine, on cherchera. Allez, et dernier match de la nuit, non, c'était celui-là. Pardon.
Non, non, il te reste l'équipe dont j'ai mis le maillot exceptionnellement aujourd'hui sans savoir, mais voilà, les Cleveland
Pardon.
Cavaliers.
Je l'ai ouvert sur ESPN et du coup, c'est Atlanta qui a battu Cleveland 112 à 101. Je suis désolé, je suis un peu à la masse ce matin. Atlanta qui. Match important, toujours pareil, on est dans la course au play-in. Alors, de toute façon, les Nets se tirent des balles dans le pied eux-mêmes, mais Atlanta qui reprend 3 victoires d'avance en battant Cleveland. Cleveland qui jouait sans Mobley, sans Donovan Mitchell.
Ouais.
Cleveland qui lutte un peu plus d'ailleurs sans Donovan Mitchell. J'ai l'impression qu'on voit toute l'importance de Donovan Mitchell en ce moment, même si les Cavs ont quand même battu les Celtics, hein, que j'avais annoncé au passage dans la late session.
C'est vrai. Écoutez Antoine Pimel pour vos pronostics, surtout pas moi.
Voilà, écoutez-moi, mais une fois sur 30, il faut choisir la bonne fois. Et donc, du coup, victoire de l'Atlanta, 23 points de Bogdan Bogdanovic, 23 points de Sadiq Bey.
Cleveland avait l'occasion de reprendre la deuxième place après ce que Milwaukee a perdu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ils ont encore pris beaucoup de retard, comme contre Boston. Là, ils avaient 21 points de retard. Ils sont revenus dans le troisième carton. Mais Atlanta a fait le job pour, comme tu dis, se replacer bien comme il faut, enfin conforter un peu leur place vis-à-vis de la lutte pour le play-in. Sadiq Bey, très bon. C'est marrant, Sadiq Bey, ça fait partie des joueurs. De temps en temps, je me dis, attends, je l'aime bien ce gars-là. Et puis après, il disparaît un peu. Ou alors, on parle pas trop de lui. Mais je sais pas, j'aime plutôt bien ce gars. Et Bogdanovic a aussi mis 23 points. Et Cleveland a été complètement éteint dans le quatrième quart-temps avec 12 points marqués. 12, si t'as ça sous les yeux, je veux bien. J'ai encore rien, je l'ai
Ouais,
pas.
12 points,
12 points marqués.
25-12. C'est simple, ils avaient un point d'avance et du coup ils se font remonter à
Ouais.
25-12.
Donc voilà, occasion manquée de prendre la deuxième place, mais Cleveland a toujours, malgré l'absence de Donovan Mitchell et d'Evan Mobley qui s'est blessé, on n'a pas la durée, mais je sais plus si Woj ou Shams qui a fait un tweet hier soir pour dire absence, enfin extended period, donc ça veut dire qu'il va quand même manquer pas mal de matchs et c'est un peu dommage pour les Cavs. J'espère qu'il reviendra en assez bonne forme pour le début des playoffs.
Yes. Bah écoute, on va se laisser là-dessus. C'est cet après-midi sur la chaîne, vous pourrez retrouver le replay de la late session justement dont je parlais. Vous pourrez m'entendre dire les Cavs vont battre les Celtics avec beaucoup d'assurance. Il y a évidemment plein de choses plus intéressantes à entendre. On est revenu
Absolument.
notamment sur les équipes qui s'étaient pas mal foirées à la draft depuis 2010. On a essayé d'analyser, voir qui avait fait les pires choix. Donc on parle de tout ça.
Il y a Anthony Bennett en
Et pour
photo.
le coup, c'est OK. C'est pour ça que tu as mis le maillot des Cavs.
Je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est vrai
C'est
que
le maillot de Kyrie?
c'est le maillot de Kyrie. Ouais, évidemment que j'ai pas un maillot de LeBron des Cavs. Quand même, un peu de.
Un brown sexual.
Hein. Voilà.
Bon, bah écoutez, on se retrouvera demain aussi pour un nouveau CQFR. En attendant, bonne journée à tous.
Bonne journée. Ciao.
Ciao, ciao.